me direz si vous le partagez ou pas. Mais voilà, moi je pense que quand on appartient au monde du travail, hein, c'est-à-dire quand on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, hein, ben on passe sa vie à travailler, ça c'est sûr. Donc, on passe sa vie à bosser, et puis aussi on passe sa vie à attendre des décisions prises par les autres. Voilà. Alors, à attendre les décisions d'un chef, les décisions d'un patron, on attend les décisions d'un banquier, son banquier, est-ce qu'il va nous accorder ou pas de prêt, les décisions de son propriétaire. On attend les décisions du gouvernement, et puis quand vraiment on n'a plus d'illusions, qu'on n'attend plus rien du gouvernement, ben on attend les prochaines élections. Voilà. Donc en fait, là, on attend. Et plus on attend, ben, plus on s'enfonce. Et plus on recule. Parce que c'est recul sur recul. Voilà, que ce soit les salaires, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, la précarité, nos droits à la retraite, à la santé, l'accès à l'éducation, les droits au chômage, eh bien, tout ça, voilà, ça recule. Je crois que tout le monde pourra en témoigner, hein, dire voilà, comment il voit les choses, mais dans toutes les entreprises où on est, que ce soit le public, que ce soit le privé, on est confronté à un tas d'attaques. Parmi ces attaques, et dans les offensives qu'on est en train de subir aujourd'hui, j'en relèverai deux qui me paraissent vraiment... C'est d'abord cette vague de suppression d'emplois. Vous savez, il y a 500 plans, il y a 300, pardon, 300, vous allez dire, c'est déjà beaucoup, 300 plans de suppression d'emplois, des grosses entreprises, hyper profitables, hein, hyper bénéficiaires, Auchan, Michelin, Airbus, il y a aussi des suppressions d'emplois, enfin bon, j'en oublie, mais Forvia, on pourrait faire le tour. Et ces 300 plans de suppression d'emplois, ben c'est quelques 350 000 emplois qui sont en train d'être rayés de la carte. 350 000. Et ça, c'est une vague de licenciements qui est visible, qui est annoncée. Hein, et on ne compte pas tous les autres licenciements qu'il y a dans les entreprises ou les travailleurs qui sont gentiment poussés à la porte. Poussés à la porte parce que... ils sont plus assez rentables, parce qu'on considère qu'ils sont en inaptitude, parce qu'il y a plus jeune et peut-être plus à exploiter que lui. Voilà. Et ça, c'est vrai dans beaucoup d'entreprises. En discutant avec une camarade hier, une copine me faisait remarquer qu'à la SNCF, par exemple, c'est 3000 emplois de moins par an depuis maintenant 20 ans. Hein, donc des plans de suppression d'emplois comme ça, déguisés, ben, il y en a plein. Alors tout ça, ben, c'est une attaque d'ampleur contre notre classe sociale. Parce que ça veut dire bien sûr plus de précarité. Hein, et ça veut dire que y compris ces femmes et ces hommes qui se retrouvent au chômage, ils vont se retrouver au chômage avec moins de droits au chômage, avec moins de droits à la retraite. Et puis qu'est-ce qu'on va les traiter de droits au final? D'assister parce qu'ils vont se retrouver au RSA. Ben voilà ce qui arrive déjà depuis des années et des années et qui est en train de s'aggraver. Deuxième offensive grave qu'on subit, c'est l'offensive et toute cette politique contre les immigrés. Et là, on voit quand même que depuis quelques mois, ça y va. Hein, la démagogie et la surenchère de tous les partis contre les immigrés. Et pour nous, quand on parle d'immigrés, eh bien, on parle de travailleuses et de travailleurs. Parce que la réalité, c'est que ce sont des femmes et des hommes qui travaillent, qui n'ont pas d'autre choix pour vivre que de penser d'accepter les boulots les plus durs et les plus mal payés. Donc, quand ils nous expliquent qu'ils vont lutter contre l'immigration et contre les migrants, ben, la réalité, c'est qu'ils s'en prennent à des travailleuses et à des travailleurs. Ils s'en prennent à notre classe sociale. Et tout ça, c'est pas... Bien sûr que c'est pas innocent, c'est qu'ils veulent nous diviser, ils veulent nous affaiblir. Ils savent très bien qu'en enlevant des droits à toute une fraction importante du monde du travail, eh bien ils font reculer l'ensemble, en fait. pèse autant que des budgets de l'État, des États. Hein. C'est une façon voilà, de faire diversion, de nous paralyser, de nous empêcher, en effet, de réagir face à tout ce qui nous tombe dessus. Alors tout ça, c'est des évolutions et des offensives qui sont bien sûr très très graves. Et c'est pas lié seulement à la France, hein. C'est pas lié seulement à notre gouvernement, et c'est pas lié seulement à Macron. C'est partagé, c'est une politique qui est revendiquée par tous les gouvernants du monde, à commencer bien sûr par celui de la première puissance mondiale. Je veux parler de Trump. Hein, et je crois quand même que depuis que Trump est arrivé à la Maison Blanche, tout le monde l'a compris. Hein, tout le monde a compris que le capitalisme, ben c'est la guerre. Voilà, c'est tout. Le capitalisme, c'est la guerre. C'est la guerre pour les marchés. C'est la guerre pour les matières premières. C'est la guerre pour les fameuses terres rares, hein, les minerais qui sont un peu plus rares que les autres. C'est la guerre pour l'intelligence artificielle. Enfin voilà, c'est la guerre. La guerre de tous contre tous. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Trump ? Ben, il nous dit que les plus puissants, ils peuvent écrabouiller les autres. Voilà. Et qu'il faut qu'ils y aillent. Et que de toute façon, il n'y a que ça qui compte. Le fric, le fric, le fric. Et que tout le reste, hein, doit finalement servir à faire du fric. Hein, c'est ça pour et là, lui, il le revendique. Il le revendique fièrement. Hein, si les États-Unis ont besoin d'annexer le Groenland parce que c'est dans leurs intérêts, bah, on y va. Si ils décident maintenant que l'Ukraine elle paye et s'ils décident de faire un deal avec Poutine en se partageant en fait hein, l'Ukraine, eh ben, allons-y. Il n'y a pas de principe, hein. Aucun principe ne compte, hein, si ce n'est celui de faire du fric. Voilà. Voilà. Et c'est la loi de la jungle. La loi de la jungle qui est érigée en règle générale. Et voilà. Nous, bah, il faudrait qu'on accepte tout ça. Hein. Alors, je sais que cette situation-là, hein, et tout, c'est... je fais court, on pourrait développer un tas d'autres trucs par rapport à Trump, moi je peux, enfin, voilà. On pourrait développer un tas d'autres choses, mais ça viendra dans la discussion. Hein. On a tous été quand même consternés, choqués, révoltés par un tas de choses qu'il a pu dire, hein, mais on en rediscutera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on est confronté avec des gens comme Trump, enfin, en tout cas Trump, je crois qu'il il incarne vraiment à la perfection l'évolution réactionnaire, nationaliste, cynique, barbare du capitalisme. Voilà. Il l'incarne et puis bon, il contribue à l'accélération hein, de cette évolution-là. Voilà. Et c'est effectivement une espèce de vague comme ça réactionnaire hein, qu'on se prend en pleine figure. On a en effet une grande bourgeoisie, un grand patronat qui se sent tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Il ne veut plus qu'il y ait de règles en face de lui, ni de code du travail, ni de règles pour limiter le réchauffement climatique. Hein. Tout ça, ça gêne. Ça gêne le business, n'est-ce pas? Donc, bazarde. Hein. Et puis, on nous dit, comme les États-Unis, ils bazardent ça, nous aussi, hein, en Europe, en France, nous aussi, il faut qu'on bazarde tout ça. On est bien obligés. Hein, alors on va où comme ça? On va où? Alors, voilà, nous, ça nous conforte. Nous, ça nous conforte dans notre détermination à mener ce combat pour renverser l'ordre capitaliste, pour renverser cette classe bourgeoise qui est au pouvoir. Ça renforce nos convictions communistes, en fait, et révolutionnaires, tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, on constate exactement comme vous. Hein, c'est que face à cette bourgeoisie un peu triomphante, hein, qui a l'air d'avoir peur de rien, et en tout cas sûrement pas d'une révolte, puisque regardez comment ils sont, hein, et bien c'est vrai qu'on voit en face ben, le monde du travail, qui pour l'instant fait le dos rond, hein, prend les coups, a peur. On voit une autre partie du monde du travail qui se laisse embobiner, qui se laisse prendre à toute cette, à tous ces mensonges nationalistes, guerriers, qui se laissent embarquer là dans ce, réactionnaire, il y a ça aussi. Hein, c'est une réalité. Donc oui, on est dans une situation où l'ensemble de la société recule, ça c'est vrai. Hein, mais il n'empêche que nous, on pense que même minoritaire, même à contre-courant, eh bien, qu'on tienne plus que jamais justement sur nos convictions, hein, qu'en face de nous, on a une société capitaliste. Et que finalement, cette société capitaliste, elle n'est pas indéboulonnable. On en est, nous, le cœur de cette société capitaliste. Parce que sans nous, sans les travailleurs, leurs profits ne sont pas faits, ils ne sont pas produits. Leurs richesses ne sont pas produites, leurs capitaux ne s'accumulent pas. Si nous, on n'accepte pas de faire le boulot sous leur commandement, il n'y a rien qui se passe. En fait, ces gens-là, ils sont forts que de notre faiblesse. La faiblesse de notre combativité, la faiblesse de notre conscience. Nous ne sommes pas conscients de la force sociale qu'on représente. On n'est pas conscients que c'est nous qui faisons tourner la société. Et qu'on aurait bien sûr la possibilité de la faire tourner autrement, en fonction de nos intérêts à tous. Et bien nous, ça reste une perspective qu'on a. Hein, à l'inverse de tous ceux qui nous expliquent qu'on est condamnés à ce système capitaliste, ben nous, on a vraiment cette conviction que non, les travailleurs peuvent tracer une nouvelle voie, justement en contestant le pouvoir de cette minorité de privilégiés et de ces capitalistes. Et il faut donc mener ce combat. Si on n'est pas en mesure de mener ce combat aujourd'hui, au travers des mobilisations, etc., ben ce combat, il faut qu'on continue de mener dans les têtes. Dans les têtes, voilà. Et c'est de ça qu'on veut discuter.
Et on le paye aujourd'hui, hein, mais on le paye d'une certaine façon cruellement.
venurent, qui sont réformistes, c'est précisément en construisant un parti communiste révolutionnaire. Ça ne suffit pas d'être syndicaliste et de militer dans les syndicats. Ça ne suffit pas. Les syndicats, ils proposent un programme, hein, mais dans le cadre du capitalisme, dans le cadre d'une société qui reste gérée, dirigée par le patronat, et qui, dans le cadre d'une société où on doit respecter la propriété privée, hein, des moyens de production, tu vois, et c'est dans ce cadre-là qu'ils cherchent à organiser un certain rapport de force, quand ils cherchent encore à l'organiser, parce que parfois, ils ne cherchent même plus à l'organiser. Hein, parfois, ils se voient déjà co-gestionnaires, et certains gros bureaucrates, hein, ils sont contents de leur place, et finalement, ça leur va bien, le statu quo. Voilà. Mais bon, donc pour nous, de toute façon, le combat, il faut qu'on le dépasse, tout ça. Vous comprenez, quand ils nous expliquent dans la discussion sur faut-il taxer les riches, hein, faut-il taxer davantage les plus riches, qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Que non, il n'est pas possible de les taxer de 2%, hein, 2% d'un patrimoine qui parfois, qui souvent dépasse les 100 milliards. Vous savez, la taxe là, de 2%, elle concernerait 1800 personnes. C'est des mecs qui sont à la tête de dizaines de milliards. Et ils sont tous en train de nous expliquer que c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils partiraient. Les capitalistes, ils vont partir avec leurs sous-sous. Ils vont partir avec leurs capitaux. Ils vont partir. Et, entre parenthèses, c'est pas faux. En plus, ils peuvent décider de partir. Pas tous, hein, parce que Leclerc, Carrefour, le Total, les stations-service, ils partiront pas. Hein. Mais il y en a un certain nombre qui peuvent. Ils ont ce pouvoir-là. Mais justement, la question, c'est quoi? C'est que nous, on se... on accepte ce pouvoir-là et finalement on acte notre impuissance, où on dit ce pouvoir-là, de ces mecs-là, de concentrer tous ces capitaux et donc de diriger l'économie, d'être à la tête de ces multinationales-là. Hein, voilà, c'est ce pouvoir-là qu'il faut remettre en cause précisément. Mais tant qu'on ne le remet pas en cause, c'est-à-dire tant qu'on ne fait pas exploser le cadre du capitalisme, la propriété privée, des moyens de production, la concurrence, la loi du profit, et bien en réalité, nous on est comme des écureuils dans la cage là, à essayer, vous savez, de grimper là, hein, mais de toute façon, on est voué à subir et à être les sacrifiés dans toute cette affaire-là. Voilà. Donc comment on maintient cette perspective révolutionnaire? Et bien en construisant un parti communiste révolutionnaire internationaliste. Un parti convaincu que la société elle peut fonctionner sans la bourgeoisie, convaincu qu'il faut l'exproprier, la grande bourgeoisie, et qu'il faut que ce soit les travailleurs qui dirigent collectivement les entreprises et qui prennent en charge, bien sûr, le gouvernement et l'appareil d'État. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on pourra la préserver, cette perspective. Et puis, je ne voulais pas rebondir sur ce que... Je voulais rebondir sur ce que, mais c'est quand même mieux quand on se lève, je crois, un peu mieux tout le monde, sur ce que le camarade de Turquie a dit, parce que je suis d'accord, complètement d'accord avec le constat que tu as fait. Hein, ils nous baladent, nos dirigeants prétendument démocratiques, défenseurs du monde libre. Hein, défenseur voilà, des droits, des droits des travailleurs, des droits des peuples, ils nous baladent en expliquant que voilà, il y a le combat des démocrates contre les dictateurs. Hein, et que c'est en ce moment-là, hein, qu'il fallait aller faire la guerre en Ukraine derrière les États-Unis. Et là, on en est où là? Hein, on en est où? Voilà, on voit où ça a mené ça. Parce que les États-Unis, depuis le début, ils sont pas là-bas pour le droit des Ukrainiens et pour la liberté des Ukrainiens. Depuis le début. Hein, en fait, ça fait des décennies, et bien avant 2014, bien avant que la guerre dans le Donbass éclate, que l'Asie tapite les États-Unis et donc les Européens cherchent à mettre la main sur cette sphère d'influence historiquement russe. Voilà, c'est ça la rivalité, depuis le départ. Alors ils sont avancés en Pologne, ils ont avancé dans plein de coins, ils ont ceinturé en effet la Russie et, ben, de bases militaires, ils ont fait rentrer dans l'OTAN un tas de pays, etc., pour arracher ces pays de l'orbite russe. C'était leur guerre entre eux. Et resté, le dernier théâtre de leur affrontement, c'était l'Ukraine. Alors il y a eu le Donbass et après il y a eu le reste. Et en effet, les Ukrainiens, ils ont été les victimes et les otages de ce bras de fer. Les jouets, oui, les jouets de ce bras de fer. C'est certes Poutine qui a décidé de mettre le haut là à l'avancée occidentale en y passant par les armes. C'est sûr que c'est lui qui a envahi. Mais si les Américains, ils ont été d'accord pour mener la guerre, parce qu'en fait, ils l'ont menée, c'est parce qu'ils y avaient intérêt. Ils y ont trouvé leur intérêt dans cette guerre. Et ils ont trouvé même l'intérêt qu'elle dure, cette guerre. Pourquoi ils ont trouvé l'intérêt que ça dure? Parce que pendant tout ce temps, la Russie s'affaiblissait. Eux, ils ont quand même fait du business. Ils ont vendu des armes à tire-larigot. Et ce n'était pas gratuit, comme tout le monde le comprend maintenant. Ce n'était pas gratuit du tout. C'était aussi un deal. On fournit les armes, mais on aura un droit d'accès. On pourra racheter les terres les plus fertiles d'Ukraine. On pourra racheter telle ou telle centrale nucléaire. On pourra... C'est tout ça qu'il y a eu derrière. Et en plus, les États-Unis, ils ont aussi, il y a eu un autre gros avantage, c'est que couper la Russie du reste de l'Europe, et en particulier couper la Russie de l'Allemagne, du même coup, ils affaiblissaient l'Allemagne. Et ils ont considérablement ratatiné l'économie allemande. Il y a eu, si vous voulez, plusieurs guerres dans la guerre, en fait. Plusieurs niveaux de guerre. Et aujourd'hui, Trump, il peut se vanter que les États-Unis, ils font la course en tête. Qu'il y a eu une énergie moins chère aux États-Unis. Que, aujourd'hui, y compris l'Europe, elle est obligée d'acheter du gaz liquéfié américain, au prix fort. Et il y a un quart qui s'est croisé. Ils ont profité au maximum de ces sanctions, en fait, contre les Russes. Donc, si vous voulez, moment où vous avez des dirigeants des grandes puissances qui interviennent, vous pouvez être sûr et certain que c'est pas pour l'intérêt, que c'est pas pour les beaux yeux des peuples. Voilà. Vous pouvez en être sûr, c'est une règle. C'est qu'ils ont du fric à faire. C'est qu'ils cherchent à faire leur business. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Trump, il a fait le calcul. Maintenant, on est un peu au bout de cette guerre. Le front, il est gelé. Les Russes, ils grignotent, les Ukrainiens, il n'y a pas... maintenant, c'est le moment du retour sur investissement. Et puis le fric, on va le faire maintenant en allant un petit peu des... on va demander à Zelensky d'aligner le fric. Et puis en même temps, on va voir ce qu'on peut faire comme deal avec Poutine. Voilà. Parce qu'en réalité, les dictateurs et ces gens, et ces prétendus démocrates, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Ils nous font croire que c'est le camp du bien contre le camp du mal. Mais c'est de la blague. Et c'est de la blague aussi, tu l'as souligné, en Syrie. Assad. Alors Assad, ça a été un allié pendant des décennies. Ça a été un allié. Il a été reçu par le président de la République. Sans problème. La prison, j'ai oublié son nom, qui a été ouverte là. Elle était là, il torturait. Ça a dérangé. Macron, c'est Macron qui a reçu Sarkozy. Ouais, Sarkozy les a à peu près tous. Mais Hollande, pareil, pareil. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Faut pas croire. Pareil. Ils ont tous défilé. Tous défilé. Donc ils ne font pas marcher là-dedans. Et nous, on a une règle par rapport à ça. Justement, c'est que tant que finalement on laisse parler en notre nom des Macron, des Hollande, des Sarkozy, des Mitterrand, alors qu'on voit très bien que tous les jours, en fait, ils sont en guerre contre. misère qu'on prononce, ils n'en ont rien à faire de voir qu'il y a la misère, qu'il y a des travailleurs, des ouvriers dans leur voiture, qu'ils s'en foutent de nous. Hein. Et si finalement on accroche nos chevaux, on les laisse parler en notre nom, ben vous pouvez être sûr qu'on est utilisé. On est utilisé pour des guerres qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Et là, ça va continuer. Je termine là-dessus, mais vous avez vu comment, y compris maintenant, vu les tensions qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe, maintenant ils essayent de nous faire, de faire en sorte qu'on forme un bloc derrière nos belles puissances européennes qui restent démocratiques. Hein, qui restent démocratiques. Bon, vous voyez, ils nous refont le même cinéma. Hein, il faut qu'on fasse confiance aux puissances européennes qui sont quand même, elles ont un château de valeur, hein, de Trump, etc. Et il faut qu'on fasse bloc derrière eux. Exactement, et il faudra qu'on accepte peut-être de payer des dizaines de milliards de plus pour construire l'armée européenne ou pour que l'armée française elle soit capable de mener les guerres toute seule. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. L'armée française, partout où elle est intervenue en Afrique et dans le monde, ça n'a jamais été pour libérer les peuples. Jamais. Ça a toujours été pour les intérêts des industriels et des banquiers français et des financiers français. Donc nous, il est hors de question qu'on continue de se sacrifier pour ces politiques-là. Il faut encore avoir à l'esprit que bah ouais, les travailleurs, voilà, ils essaient de nous foutre dans des camps. Alors, voilà, les Français, par contre les Algériens, parce que ça aussi c'est encore une vaste diversion, hein. Vous avez vu la brouille entre la France et l'Algérie. Alors, choisis ton camp, France ou Algérie. Choisis ton camp, Europe ou États-Unis. Europe ou Chine. Ben non, nous, on ne connaît qu'un camp. C'est le camp des travailleurs, le camp des exploités. Et ce camp-là, il est international. Et ce camp-là, il faut enfin qu'il réalise que tous les gouvernements, disons, il n'y en a pas un seul qui s'intéresse à leur sort. C'est que ben, tu comprends très bien ce qui s'est passé. Hein, son petit réseau là, de notables, bien propres sur eux, bien cathos, bien traditionnalistes, hein, avec des valeurs, etc. Hein, tout ce petit milieu, ben, ils se sont protégés les uns les autres. Voilà. Ils se sont protégés les uns les autres. Hein, ils tiennent le haut du pavé, hein, ils ont leur. Voilà. Et ils sont protégés les uns les autres en couvrant des saloperies, en couvrant des viols, en couvrant des sévices contre les enfants, etc. Et puis ce que ça exprime quand on regarde un petit peu dans le détail, hein, c'est aussi un mépris vis-à-vis des enfants, des familles les plus pauvres et les plus ouvrières. Hein, parce que c'est pas les enfants Bayrou, hein, qui ont reçu des gifles et qui ont été, hein, on peut facilement imaginer, hein, c'est évident, hein, que c'était ceux qui avaient plus de mal à s'adapter, on va dire, hein, de leur point de vue. Vous voyez ? Donc ouais, c'est débutant de bout en bout. Voilà. Et je suis d'accord, tu as raison de le souligner, parce que c'est aussi dans cette position-là, dans ces petites choses-là, qu'on mesure que leurs belles valeurs, là, c'est des gens, ils passent leur vie à nous faire la leçon de morale. Hein, à la télévision, tout le temps, ils nous font la leçon de morale sur comment on doit se conduire, comment on ne doit pas se conduire, comment il faut respecter la loi, comment. Tous les jours, en permanence. Hein, et voilà comment eux qui conduisent. Tout ça pour protéger leur petit monde. Leur petit monde qui a une petite parcelle de pouvoir. Voilà. Bon, ben voilà, moi je. Parce que. Alors, j'ai envie de te dire, ça ne m'étonne pas, hein, mais c'est en effet. Et c'est bien que ça continue de nous révolter. C'est bien que ça continue de nous révolter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les croire sur rien, sur absolument rien. C'est toi qui as évoqué la subversion migratoire. Bayrou, c'est un centriste, soi-disant. Non, mais vous voyez aussi, hein, centriste, le mec au milieu, qui essaye de. Voilà, hein, et puis aujourd'hui, Ben voilà, hein, voilà, il est dans la surenchère et il est en train de servir la soupe à Le Pen. Hein, et parce que c'est, voilà, c'est des démagogues. Comment ils font pour s'accrocher au pouvoir? Comment ils font pour. Ils sont prêts à tout. Hein, ben, tout ça, c'est.
Votez pour moi, votez pour, et nous, on fera, on mettra une taxe.
ici, on mettra une réglementation là, et puis vous allez voir que ça va changer vos vies. Donc, c'est eux qui font croire que Trump... Ah ben voilà, moi je l'ai entendu. Ah mais Trump, au moins, des commentateurs français, hein, lui, au moins, il fait ce qu'il dit. Vous savez pourquoi? Parce que, à grand renfort médiatique et de caméra, quand il a été investi, le Trump, même, il a signé plein de décrets avec sa signature. Oh, il est balancé dans la foule, regardez, voilà, en 5 minutes, hein, où il a pris 100 décrets, le mec. Hein, il a changé carrément la vie des Américains. C'est de la blague, tout ça. C'est du grand cinéma. C'est du grand cinéma. Même quand ils disent, bah, Trump fait ce qu'il dit. Parce que c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Vous savez, même l'histoire des taxes, des droits de douane. Il a dit, voilà, on met 25% de droits de douane avec le Mexique. Ça a tenu 24 heures. 24 heures. Le temps que la bourse de Wall Street dévisse, que les quelques capitalistes s'en doutent la paix, oh, t'as déconné mon gars, hein, et puis il a suspendu les 25% de droits de douane. Il a pris, là, il a, avec sa caméra, un avion qui repartait au Guatemala chargé de migrants. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que les mêmes avions, c'est exactement les mêmes parcours sous Biden. Parce que Biden, il en a renvoyé 800 000 aussi chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans... Voilà, il fait du grand cinéma. Hein. Les mecs, c'est un grand démagogue. Hein. Il a voulu, il a dit des choses horribles. Il a menti, il a sorti des trucs, mais pour faire croire qu'il allait renverser la table. Hein. Mais vous croyez que les fermiers du Texas, quand ils ne vont plus avoir aucun ouvrier agricole pour traire leurs vaches, hein, parce qu'ils auront tous été renvoyés au Mexique ou au Venezuela, vous croyez qu'ils vont se laisser faire? Ben, bien sûr que non. La réalité, c'est que même un gars comme Trump, hein, qui apparaît tonitruant, tout ce que vous voulez, il maîtrise rien, pas plus que les autres, rien, et que le système, il peut lui péter à la figure. Demain, il peut péter à la figure. Parce que, d'abord, il y a des bulles spéculatives un petit peu partout, bah, notamment sur l'intelligence artificielle, il y a des bulles. Et parce que le système il est maîtrisé par personne, absolument personne, en fait. Ils ne savent pas du tout où ils vont, ni lui, ni les autres. Hein, la voiture électrique, ils nous la vendaient pour... Mais ils patauchent, les mecs. Ils ne savent même plus ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Hein, ils ne dirigent pas la société capitaliste, parce que la société capitaliste, elle n'est pas dirigeable. Voilà. Alors quand tu as un politicien qui dit « moi je vais faire ci, moi je vais faire ça », il y a plusieurs niveaux de mensonge. Il y a d'abord le mensonge que ceux qui ont un petit pouvoir de faire ce qu'ils disent, c'est ceux qui ont le pognon, c'est ceux qui ont les capitaux. Oui, un mec comme Musk, un mec qui a un petit peu plus de pouvoir hein, qu'un Macron, ça c'est sûr. Parce que lui, il peut mettre des investissements ici, il peut faire des choses là, ok. Ils ont le fric, eux, et voilà. Déjà, ceux qui ont véritablement le pouvoir de faire des choses, c'est ceux qui ont le fric. Ça, c'est ce que les politiciens comme Mélenchon, comme Le Pen, ils disent pas. Et le deuxième aspect, c'est que même ceux qui ont du fric et qui décident de faire des choses, de toute façon, ils sont confrontés à un système qui est tellement contradictoire et qui est en crise, c'est que même eux, en fait, ils sont confrontés à un tas d'incertitudes et de... Voilà, ils ne maîtrisent rien. Ben ça, faut le dire, faut en discuter. Voilà, c'est parce que sinon, on nous sert ça comme politique. Hein, et enfin bon, voilà, et c'est évident que tous ceux qui... Enfin voilà, même quelqu'un comme... Enfin moi, ce qui est frappant, il faut regarder de près, hein, regardez comment même Bardella, là, dernièrement, hein, plus le RN se rapproche du pouvoir, moins il s'engage auprès des travailleurs. En plus, il recule par rapport par rapport aux engagements quoi, hein, qu'ils pourraient prendre, à la fois sur l'augmentation de salaire, ou parce qu'ils savent très bien qu'une fois au pouvoir, ils seront exactement comme tous les autres. C'est-à-dire qu'ils seront sous le commandement de la grande bourgeoisie française. Vous avez vu que Mandela, il a été obligé de dire que lui, il n'était pas pour la surtaxe hein, contre les milliardaires. Il a vu une interview, là, la semaine dernière, où la journaliste lui a demandé s'il était pour qu'on mette cette petite... C'est une petite taxounette, hein, c'est que dalle. Hein. Ils ne vont pas payer grand-chose de plus. Hein. Eh bien, il a dit que non, parce que, quand même, les capitalistes, ils avaient quand même beaucoup de charges, hein, beaucoup de responsabilités, comme le boulanger, d'ailleurs, il a dit, hein, comme le boulanger, il est passé de Bernard Arnault au boulanger. Vous voyez, il y a une continuité, c'est... Voilà. Et voilà. En fait, là, ils se mettent à genoux. Ils se mettent déjà à genoux devant, effectivement, le grand patronat pour dire au grand patronat, mais il faut nous aimer, nous aussi, comme les autres. Regardez, nous, on ne vous veut que du bien. Voilà. Voilà, c'est ce qui prétend être les sauveurs suprêmes des travailleurs. Tout ça, c'est il faut le démonter. Il faut le démonter, il faut combattre tout ça. Alors, c'est vrai que, en même temps, comme on est dans une société qui méprise les travailleurs, qui passe son temps à les rabaisser. Ah ouais, mais t'as pas fait assez d'études, ouais, mais toi tu sais pas, oui, mais toi tu dis ça parce que t'as pas compris, ta. Et puis, alors, dans l'entreprise, c'est pareil. On passe ton temps à te rabaisser. T'as juste à obéir, t'es commandé, réfléchis pas, fais ce qu'on te demande de faire. Donc voilà, on est dans une société qui pousse hein, les femmes et les hommes de notre classe à se sous-estimer quelque part et à se dire bah, finalement c'est, il faut forcément que je m'en remette. Enfin, moi je peux rien faire, moi je suis tout petit, moi je sais pas, je saurais pas m'y prendre. C'est ça qu'on nous met dans la tête aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui disent bah ouais, bah, faut forcément s'en remettre à je sais pas qui. Ils s'en sont remis à la gauche, ils s'en sont remis à la droite. Bah aujourd'hui, ils cherchent, voilà. Ils ne savent plus à quel diable se jouer. Voilà. Donc je suis d'accord sur l'hommage que tu as rendu à la classe ouvrière. De dire qu'il faut arrêter de se sous-estimer. Il faut être conscient de ce qu'on représente. Il faut être conscient que voilà, on fait tout. Et ce qu'il y a de plus chouette dans la société, bah c'est nous qui le faisons en fait. Ouais.
Je suis d'accord sur ce que tu dis. Le problème, c'est quand même un problème politique, si tu veux. L'idée de la fierté ouvrière, effectivement, c'est parce qu'on fait tout fonctionner. temps, ils décident, en fait, même des idées qui soutiennent contre cette idée d'émancipation, quand ils défendent l'idée du nationalisme, quand ils défendent l'idée qu'il faut défendre son entreprise, etc., en fait, ils enferment, et en fait, c'est eux qui sont les agents de la bourgeoisie, en réalité, dans le monde du travail. Donc c'est tout cet aspect-là qu'à mon avis, on est obligé de défendre. C'est ça, justement.
En réalité. Donc, Donc voilà, maintenant on peut se dire, voilà, vu tout ce qui nous tombe sur le dos là, hein, la crise climatique, j'ai oublié, dit mais on ne sait plus où mettre la tête. Et on se dit, mais de toute façon, tu vas te battre sur un truc là, et puis de toute façon, la société elle prend l'angle de côté, hein, tout ça, c'est... Et bien il faut réaliser que tous ces problèmes, ils ont une racine commune, c'est que précisément ce qui dirige le monde, hein, cette grande bourgeoisie, eh bien elle dirige pas. Voilà, elle ne dirige que pour faire sa guerre économique, elle ne dirige que pour nous exploiter, elle ne dirige que pour dominer la société. Et elle instaure à l'échelle de toute la société des rapports de domination, des rapports inégalitaires qui ne peuvent que creuser, hein, le fossé entre les plus riches, les plus pauvres, entre les pays, qui ne peuvent que attiser les guerres. Il y a la même racine. Et encore une fois, quel moyen d'action on a là-dessus? Eh bien, on a comme moyen d'action le fait qu'on ait des travailleurs et que leurs capitaux, c'est aussi eux qui les produisent. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous tiennent par leurs capitaux. Les capitaux, c'est quelque part les chaînes qu'ils nous mettent. Hein, c'est par là qu'ils nous enchaînent, par leurs capitaux. Mais c'est nous qui fabriquons les chaînes. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'y compris contester l'exploitation, se battre pied à pied sur les petits problèmes comme sur les grands, mais à commencer par les entreprises, montrer comment ces gens-là, en fait, ils ne respecteront jamais les travailleurs, ils partageront jamais. Nous, on ne va pas leur reprocher d'être des égoïstes ou d'être pas, je sais pas quoi. C'est comme ça, leur système, il fonctionne comme ça. Donc, c'est en menant ces combats-là qu'on pourra avancer les confronter à leurs responsabilités. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'un combat poussé jusqu'au bout, et bien justement, il permettra de développer cette conscience qu'on doit s'en débarrasser de ces gens-là. En réalité, la meilleure façon d'aider, de mettre fin à cette guerre du Congo, mais j'ai envie de dire aussi à ce qui se passe en Palestine, hein, parce que souvent on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut, oui, manifester une solidarité, mais en réalité, on peut faire plus que ça, plus que ça. Ce qui se passe là-bas, c'est nos propres dirigeants qui l'organisent, qui sont responsables. Et si nos dirigeants, on arrive à les dégommer, à s'en débarrasser, eh bien oui, bien sûr qu'on offre une solution, y compris à ces peuples qui ont été dressés les uns contre les autres. Hein, parce que pour faire vite, ce qui se passe là-bas, c'est pas une guerre de religion, c'est pas vrai. Hein, ça a été des peuples qui ont été dressés l'un contre l'autre pour asseoir la domination des grandes puissances impérialistes dans une région riche en pétrole. Et c'est ça le malheur du Congo et du Nord Kivu, c'est qu'il est riche en minerais. Voilà, et c'est pour ça qu'il est ravagé. Donc effectivement, le bout par lequel il faut qu'on le prenne, ben, c'est par la lutte de classe qu'on a à mener au jour le jour. Et cette lutte de classe, avec une conscience politique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donc seulement avoir pour idée qu'on a à se battre pour une meilleure retraite ou pour des meilleurs salaires. Bien sûr, ce combat, il faut le mener, mais il faut le mener avec la conscience que si on arrive à reprendre confiance dans nos forces et à repartir à l'assaut, eh bien, il faudra qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire se débarrasser de ces gens-là, les exproprier, prendre les mains et réorganiser la société sur nos bases, des bases collectives, des bases où nos alliés, ce sera les travailleurs du monde entier, les travailleurs, les ouvriers chinois, les ouvriers russes, du Congo, de ces mineurs, hein, qui en effet risquent leur vie tous les jours pour aller récupérer un peu de coltan et de... voilà. Donc, voilà, qui sont nos alliés et qu'avec eux, en effet, on pourra réorganiser l'économie à l'échelle de la planète. Et peut-être on réussira à faire face aux immenses défis qui se posent à nous sur le réchauffement climatique, hein, et, bah oui, et l'égalité entre les peuples. Voilà. Mais le combat, on doit le prendre par le bout qu'on tient. Et on en tient un camarade debout. Hein. C'est-à-dire, voilà, on bosse, ils ont besoin de nous, il faut qu'on organise la solidarité ouvrière. Et que malgré cette